Good Evening Business. Guillaume Paul.
Il est 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a la confirmation malheureusement que l'économie française est en train de ralentir au troisième trimestre. Ça sera le cas aussi au quatrième trimestre après une courte, trop courte incursion du côté de l'inflation. On va voir tout ça bien sûr dans un instant. Sinon c'est fait, Elon Musk est bel et bien le nouveau propriétaire de Twitter. C'est confirmé. Que compte-t-il en faire exactement et aura-t-il les moyens d'en faire ce qu'il a envie d'en faire dans les prochaines années? On va pas mal vous en parler ce soir sur BFM Business. Et puis on reviendra sur cette folle semaine des GAFA qui ont perdu à Wall Street l'équivalent de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est un vrai souci. Est-ce que c'est la fin d'une époque? On en parlera notamment avec Carlo Pourlacinta, l'ancien patron de Microsoft France, qui publie un ouvrage par ailleurs qui nous rassure sur le fait que non, l'Europe n'a pas joué sa dernière carte en matière d'innovation dans le cadre de cette bataille de la data, de l'intelligence artificielle. Il sera avec nous pour en parler dans un gros quart d'heure sur BFM Business. Voilà le programme, 18h30, le grand débat comme tous les soirs, 19h, les pionniers chez Fred Mazzella. C'est parti en ce qui nous concerne.
Votre rendez-vous avec Bruno.fr, le spécialiste de tous les équipements de travail pour les professionnels. Bruno, à vos côtés pour réussir.
Donc, pour commencer, ces chiffres que nous a donné l'INSEE ce matin et qui ne sont pas bons, faut pas se voiler la face. Bonsoir Raphaël Couder.
Bonsoir Guillaume.
La France a fait 0,2% de croissance au troisième trimestre, première estimation de l'INSEE. Ça ralentit par rapport au printemps, toujours et encore à cause de l'inflation, Raphaël.
Oui, effectivement, l'inflation continue de progresser et l'inflation donne un coup de frein à la consommation des ménages, consommation qui a stagné à 0% le trimestre dernier. Les ménages français commencent à sentir la baisse de leur pouvoir d'achat et ça les incite à économiser davantage. Or, on le sait, la consommation, c'est le moteur de l'économie française. Eh bien, le trimestre dernier, ce moteur, il a calé la progression du PIB. Elle a surtout été portée par les investissements des entreprises. Eux, ils sont en hausse de 1,3% le trimestre dernier, après un début d'année qui était déjà dynamique. Et c'est pas une surprise, hein, les entreprises anticipent une dégradation de la conjoncture. Elles en profitent donc pour investir tant qu'elles le peuvent.
Et les perspectives sont pas vraiment favorables à plus ou moins long terme, Raphaël, hein.
Oui, parce que l'inflation, elle va pas se résorber tout de suite, hein. Au contraire, elle s'est même brusquement redressée sur le mois d'octobre. La hausse des prix a atteint 6,2% sur un an. C'était 5,6% en septembre. Voilà ce que nous a indiqué l'INSEE aujourd'hui. Par ailleurs, sur les trois derniers mois de l'année, l'économie française va devoir composer avec un environnement international qui se dégrade de plus en plus. On a eu il y a quelques heures les chiffres d'inflation en Allemagne. C'est 10,4%, un plus haut depuis 1951. C'est la même chose en Italie. Là, on atteint presque 12% d'inflation. Là aussi, c'est un record. Tout ça, ça va forcément peser sur l'activité en France dans les prochains mois. Résultat, l'INSEE attend une croissance nulle au dernier trimestre, ouais. Et certains économistes tablent même sur une légère contraction.
Merci beaucoup Raphaël. Bon, alors est-ce que l'économie française est en train de caler cette fois pour de bon? On en parlera dans 10 minutes avec l'économiste d'Astérès, Sylvain Bersinger, qui sera avec nous sur ce plateau. Parler de l'Allemagne. Inflation à plus de 11%. L'Allemagne qui, du coup, se prépare peut-être à des mouvements de grève assez massifs dans l'industrie. Puisque c'est le principal syndicat du pays, IG Metall, qui a appelé aujourd'hui à faire grève dans le secteur de la métallurgie, secteur qui emploie plus de 3 millions de personnes. Grève pour réclamer des hausses de salaire d'au moins 8%. Des premières grèves d'avertissement, d'ailleurs, auront lieu dès demain samedi à travers tout le pays. 18h04. Twitter, comme prévu, donc, c'est fait. Elon Musk est le nouveau propriétaire pour la bagatelle de 44 milliards de dollars. Il est désormais maître à bord, mais il risque d'avoir du mal à rentabiliser le réseau social tel qu'il le conçoit pour l'avenir. C'est ce que nous expliquait tout à l'heure Grégory Volokhin, le patron de Mescard Financial Services. Écoutez.
Ici, ce qu'on dit à Wall Street, aussi avec un peu d'humour, on dit l'oiseau va être libre. En fait, Elon Musk va être dans une cage. Alors, c'est quoi la cage de Elon Musk? C'est qu'en fait, pour le moment, Twitter, c'est une compagnie qui dépend à 92% de la publicité. Or, Elon Musk l'a dit, il veut vraiment diversifier ses revenus. Il veut pas que Twitter ne dépende que de la publicité. Alors, comment diversifier les revenus avec peut-être des abonnements? Mais l'autre chose que Elon Musk, avec vraiment raison, veut, c'est que ça soit une plateforme où les gens puissent s'exprimer librement, le plus librement possible, évidemment, dans les limites de la décence. Pas d'appel au meurtre. Ça se fait pas. Sauf que là aussi, ça pose un problème pour les publicitaires, parce que les publicitaires, ils aiment pas tellement ne pas pouvoir contrôler où leur publicité apparaît.
Voilà, Grégory Volokhin tout à l'heure avec nous sur BFM Business. Et à Pierre, qu'on parle de liberté d'expression, regardez ce message qu'a posté Donald Trump tout à l'heure sur son propre réseau social, Truth. « Je me réjouis, écrit-il, que Twitter soit désormais entre de bonnes mains, qu'il ne soit plus dirigé par des fous de la gauche radicale. Donald Trump ne dit pas en revanche s'il compte ou espère retourner sur le Twitter d'Elon Musk. » La question, effectivement, c'est de savoir désormais ce qu'on va entendre par liberté d'expression, la façon dont Elon Musk le voit. Et à ce sujet, Musk s'est fait recadrer aujourd'hui par Thierry Breton, le commissaire européen sur le sujet. C'est Laura Camus qui nous raconte ça.
L'oiseau est libre, c'est la déclaration écrite par Elon Musk sur Twitter à peine son rachat de la plateforme acté. Le milliardaire se pose en défenseur de la liberté d'expression absolue. Il avait déclaré acheter Twitter pour aider l'humanité et permettre à toutes les opinions de s'exprimer librement. Avec ce tweet, il tempère sa position pour rassurer les investisseurs.
Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ouvert à tous, où tout peut être dit, sans conséquence.
C'est loin d'être suffisant pour Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, met immédiatement en garde Elon Musk.
En Europe, l'oiseau volera selon nos règles européennes.
Une référence à la nouvelle réglementation sur les GAFAM adoptée cet été. Le Parlement européen avait voté ce texte avec cet objectif, réguler les contenus en ligne en contraignant les grandes plateformes à respecter les lois.
Voilà la réponse très claire de Thierry Breton à Elon Musk aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elon Musk, dont on va reparler, tenez largement ce soir sur BFM Business. Avec ce documentaire à 21h, si le sujet vous intéresse, bien sûr, de Tesla à SpaceX, le monde selon Elon Musk. Documentaire donc à découvrir ou à redécouvrir ce soir à 21h sur BFM Business. Il est 18h07 en attendant. Dans l'actualité des entreprises, toujours, ça bouge dans le secteur bancaire. Puisqu'on l'a appris tout à l'heure, chez BPCE, un nouveau patron arrive, c'est Nicolas Namias, l'actuel patron de la filiale Natixis, qui va prendre les rênes du groupe bancaire. Caroline Morisseau.
La banque a fait le choix de la continuité. Nicolas Namias a fait l'ENA comme François Perrol et Stanford comme Laurent Mignon. Comme lui, il vient de Natixis. Il a d'abord été directeur de la stratégie et des finances avant d'en prendre les rênes en 2020. C'est lui qui a piloté la sortie de la cote de la banque de financement et d'investissement, puis son intégration dans le groupe. Nicolas Namias connaît aussi parfaitement les arcanes politiques. Il a débuté sa carrière à la direction générale du Trésor à Bercy, où il était chargé de préparer les sommets internationaux. Il est aussi passé par Matignon, comme conseiller technique chargé du financement de l'économie et des entreprises sous Jean-Marc Ayrault. Enfin, il n'a que 46 ans et pourra donc faire plusieurs mandats, son seul point faible selon ses opposants. Contrairement à son rival, Daniel Cariotis, il n'a jamais dirigé de banque régionale, ce qui n'est pas forcément pour déplaire aux patrons régionaux qui restent très attachés à leur autonomie. Malgré des divergences, le conseil de surveillance s'est en tout cas parvenu à s'entendre sur un vote à l'unanimité, de quoi asseoir la légitimité du nouveau patron qui devra prendre les rênes du groupe dès la fin de l'année, après le départ surprise de Laurent Mignon.
Voilà, Caroline Morisseau, donc Nicolas Namias nommé à la tête de BPCE. Et puis dans l'actualité des entreprises, on a encore beaucoup d'entreprises qui nous ont présenté des chiffres d'affaires aujourd'hui sur le troisième trimestre. C'est le cas de Sanofi, dont le chiffre d'affaires progresse de 9% sur un an, croissance portée par les vaccins, mais aussi par un médicament, le Duxipent. Médicaments dont le groupe commence à devenir dépendant, peut-être trop dépendant d'ailleurs, aux yeux des marchés financiers. Hélène Cornet.
Le retour de la grippe et la reprise des voyages internationaux profitent à Sanofi. Sa division vaccins est en hausse de plus de 23% au troisième trimestre, plus 32% rien que pour les ventes des vaccins antigrippaux. Mais c'est bien encore une fois le Dupixent qui tire toute la croissance du groupe. Médicament phare contre la dermatite atopique, l'asthme et d'autres indications, il vient de dépasser la barre symbolique des 2 milliards d'euros de ventes ce trimestre. C'est un cinquième du chiffre d'affaires de Sanofi. Des essais sont en cours pour savoir si ce médicament est indiqué pour lutter contre d'autres pathologies, comme la bronchite chronique par exemple. Un blockbuster qui devient un peu trop primordial au sein du portefeuille du groupe, et ça inquiète les marchés et même les syndicats du laboratoire qui, dans une lettre au gouvernement, s'interrogent sur la stratégie de la direction. S'il y avait le moindre souci sur le Dupixent, explique la CGT, Sanofi serait en mauvaise posture.
Voilà, Sanofi beaucoup trop dépendant apparemment du Dupixent aujourd'hui. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h10, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Aude Kersulek, on vous retrouve à Euronext à la Défense pour bonsoir. BFM Business. Petite hausse ce soir, mais on clôt une semaine très très bonne sur l'indice parisien, Aude.
Oui, c'est ça, plus 0,4% ce soir en clôture. Finalement, emporté par Wall Street et la résilience notamment du secteur technologique là-bas. Et puis sur la semaine, ça nous fait finalement eh bien, une hausse de quasiment 4% de l'indice parisien. Une semaine portée par des résultats d'entreprises qui ont été pour la plupart bons. Solide encore aujourd'hui dans l'industrie où certaines entreprises ont relevé leurs prévisions annuelles chez Sanofi, chez Danone. Dans l'aéronautique aussi, publication salué pour Airbus et Safran, mais on a aussi eu des baisses impressionnantes aujourd'hui sur l'indice plus large, notamment du côté d'Air France ou de Solution 30, BIC aussi ou encore Casino Guichard qui tentait de rassurer sur sa solvabilité. Encore beaucoup de résultats à venir la semaine prochaine et un autre gros morceau après la BCE hier, la réserve fédérale et en oui. milieu de semaine prochaine, le CAC qui clôt ce soir à 6273 points.
Merci beaucoup Aude Kersulek depuis Euronext à la Défense. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui s'envole d'un 86% en 32 629 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui aussi bien orienté, plus 1,7%, 10 983 points. Tout ça à la mi-séance, bien évidemment. 18h11 sur BFM Business. Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès, est avec nous. Bonsoir Sylvain, bonsoir. Pour parler de ces chiffres que nous a donné l'INSEE ce matin, hein, en termes de croissance, en termes d'inflation aussi, croissance qui décélère 0,2% au troisième trimestre versus 0,5% au second. Et l'INSEE nous dit 0 à la fin. Est-ce qu'on franchit une étape là pour vous, Sylvain, très concrètement là,
C'est un ralentissement qui était attendu. Oui. 0,2, c'est globalement ce qu'attendait l'INSEE, la Banque de France et je dirais un peu tout le monde. Je crois que personne n'est tombé de sa chaise en voyant ce chiffre.
Bien sûr,
donc on ralentit, c'était attendu. On sait bien que l'environnement économique se durcit. Comme vous l'avez dit, il va continuer à se durcir. Donc voilà, on est sur une tendance plutôt poussive. Oui. Alors, il y a quand même des bons chiffres, je pense qu'il faut le souligner. C'est notamment l'investissement.
Mais voilà, l'investissement des entreprises, c'est un bon repart aussi, quoi qu'on en dise. Quoi.
Oui, qui indique en fait que probablement les entreprises restent globalement optimistes. Donc, ce qui peut, quoi, il ne faut pas extrapoler sur ces chiffres, mais cet investissement qui est quand même très dynamique dans ce contexte morose, ça peut laisser penser que les entreprises, bon, elles se doutent bien qu'il va y avoir un passage à vide dans les trimestres à venir, mais qu'elles anticipent qu'à moyen terme, sur les années à venir, la demande va repartir. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif.
Il faut que la consommation suive. Pour l'instant, la consommation ne suit pas parce que cette inflation, on s'est rendu compte au fil des mois qu'elle perdurait et qu'elle était encore là pour un petit moment finalement, Sylvain. Hein, c'est quand même ça.
Oui, alors, c'est vrai que les chiffres de l'inflation, j'ai trouvé que c'était vraiment une mauvaise nouvelle. Moi, j'avais secrètement espéré qui reste en tout de 6%, c'était un peu ma prévision.
Alors, l'INSEE nous avait prévenu quand même, l'INSEE nous avait prévenu.
Oui, voilà, j'étais peut-être un peu trop optimiste, mais voilà, 6,2%, et c'est vrai que ce que je trouve un petit peu inquiétant, c'est peut-être un peu excessif, mais enfin, problématique, c'est qu'on voit que sur les produits agricoles, sur les produits industriels, ça accélère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si je caricature, on avait une inflation qui était tirée par l'énergie. Donc on se disait, le prix du gaz, du pétrole va finir par rebaisser, ce qui s'est d'ailleurs un peu passé avec le gaz ces dernières semaines.
C'est vrai.
Mais là, on sent que l'inflation devient plus ancrée, que les industriels qui ont des hausses de coûts de près de 25% commencent à passer ces hausses de coûts de plus en plus dans leurs prix.
Oui.
Et donc ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est plus juste une flambée du prix de l'énergie, mais c'est quelque chose qui semble commencer à devenir plus durable.
Ça s'installe un peu structurellement, quoi, quelque part.
Alors structurellement.
Oui. Toute proportion gardée.
Laissons les guillemets, c'est un peu inquiétant de voir notamment la hausse sur les prix industriels, une hausse assez sensible par rapport à septembre. Et ça, je trouve que c'est plutôt inquiétant.
Ça nous dessine une année 2023, un début d'année 2023, tout du moins, qui pourrait ressembler à quoi pour vous
Je pense que les deux trimestres à venir vont pas être terribles. Il faut pas se mentir. On aura une croissance zéro, voire même légèrement négative, une inflation qui va rester importante. Faut voir que en début d'année, le bouclier tarifaire va être augmenté de 15%.
Oui,
donc sur l'inflation, ça va faire plus 15% sur les postes énergétiques. Avec les besoins de chauffage pendant l'hiver, on peut malheureusement anticiper que le prix du gaz, qui avait beaucoup baissé, plutôt aller en rebondissant. Nos voisins européens, Allemagne, Italie, pour qui la situation risque d'être encore plus difficile, donc des exportations qui risquent de pas être très brillantes. Donc je pense que les deux trimestres à venir faut s'attendre à des chiffres assez moroses.
Récession, petite récession ou pas, c'est pas ça forcément le fond de l'histoire.
S'il y a deux trimestres à moins 0,1, on dit que c'est la récession.
C'est très technique.
C'est très technique, mais je pense que plus tard en 2023, on peut espérer un rebond, alors modeste, je m'enflamme pas, mais je pense qu'à partir du printemps-été 2023, si on a une inflation qui ralentit, et je pense qu'on peut l'espérer, hein, vu l'effet de base qui sera quand même très positif, là je pense qu'on peut avoir une économie qui commence à repartir modestement, mais enfin voilà.
Est-ce qu'il faut dans l'intervalle se préparer à une remontée peut-être légère, mais tout de même du chômage? On a vu les chiffres récemment qui nous disent que le chômage ne remonte pas, mais il ne baisse plus en France aujourd'hui.
Oui, alors c'est vrai que...
Ça aussi, c'est le grand inconnu, finalement.
Une reprise sur l'emploi post-Covid qui a été vraiment très dynamique, et je crois qu'il a surpris à peu près tout le monde par sa vigueur. Et là, on est sur un peu un plateau. Hein, c'est les derniers chiffres, donc on ne repart pas dans des destructions d'emploi ou une hausse de chômage, mais on est plutôt sur un plateau. Oui, peut-être que sur l'hiver, on aura... peut-être une légère remontée du chômage ou des pertes nettes sur les créations nettes d'emplois, quelques pertes. Après,
on s'inquiète par rapport à l'accumulation des plans sociaux dont on parle de plus en plus, Sylvain, c'est ça en fait.
C'est possible. Oui. Cela dit, mon scénario central, c'est que, on va avoir deux trimestres moroses et ensuite un léger rebond. Donc, deux trimestres moroses, je ne vois pas forcément un tsunami de chômage. Donc,
non.
Voilà, les chiffres risquent de ne pas être extraordinaires. La très bonne dynamique des créations d'emplois qu'on a vue depuis bientôt un an et demi, elle va s'arrêter, peut-être légèrement repartir en sens inverse. Mais je ne suis pas inquiet outre mesure sur le chômage. Dans les trimestres à venir.
Zone de turbulence de quelques mois. Allez, on va croiser les doigts pour que tout ça s'estompe le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Sylvain.
Merci, en tout cas.
Merci de passer nous voir. Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès avec nous. À très vite, avec plaisir, Sylvain, sur BFM Business. 18h16, la folle semaine des GAFA en bourse, le rachat de Twitter par Elon Musk, et puis, dans une moindre mesure, tout ce qui se joue à l'heure actuelle autour de la bataille de l'innovation, de la data, de l'intelligence artificielle en Europe, mais pas que. On en parle dans un instant avec l'ancien patron de Microsoft, Carlos Porrasanta, qui est avec nous sur BFM Business. A tout de suite.
Good evening business. L'invité.
Il est 18h19 sur BFM Business. C'est donc l'ancien patron de Microsoft France, Carlos Porrasanta, qui est avec nous. Bonsoir, Carlos Porrasanta. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec un ouvrage dont on va parler dans un instant. On va le voir s'afficher à l'écran si vous nous regardez à la télévision. Ça s'appelle L'élan décisif aux éditions du Cherche Midi. C'est une bouffée d'optimisme. On va en parler, bien sûr, dans un instant. J'ai quand même, si vous me permettez, Carlos Porrasanta, deux petites questions d'actu pour vous. D'abord, le rachat de Twitter par Elon Musk. Vous voyez, Donald Trump qui dit Twitter est dans de bonnes mains. Est-ce que vous considérez que Twitter est dans de bonnes mains désormais, Carlo Porrasanta?
C'est un entrepreneur qui a démontré une grande capacité à construire de la valeur.
Ouais.
Maintenant, c'est-à-dire que le sujet fait venir au moins deux réflexions. Un, c'est la concentration du pouvoir dans les mains de quelques entrepreneurs dans le monde.
Ouais, ouais.
Et ça, je le traite aussi dans le livre. C'est-à-dire que la technologie est née comme une promesse de démocratisation de l'opportunité économique. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus un oligopole et basé sur des plaques géographiques spécifiques et d'ailleurs non européennes. Donc ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que dans la gouvernance du monde que nous voulons, c'est bien souhaitable d'avoir quelques entrepreneurs qui gèrent autant de business?
Il y a ce sujet évidemment absolument central, vous avez raison, et la liberté d'expression.
Exactement. Ouais. Le deuxième, c'est la gouvernance des réseaux sociaux.
Ouais.
Je le traite aussi dans mon livre. Je parle peut-être plus de Facebook ou de Twitter, mais à la fin, c'est la même chose. Parce que beaucoup dans l'actualité, on dit Facebook, Twitter, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Donc il y a beaucoup de polémiques. La réalité, c'est que tout ce qu'ils font est exactement légal. Donc la question qu'il faut qu'on se pose est différente. C'est comment ça se fait que depuis 15 ans qu'ils existent, nous n'avons pas été capables, dans aucun pays du monde, à mettre un cadre facile à comprendre et à exécuter pour qu'ils respectent les règles du jeu.
Et vous avez
écrire les règles.
Vous avez la réponse à la question? Vous avez la réponse est dans la question finalement. Qu'est-ce que vous dites?
La réponse est dans la question, c'est-à-dire que les règles, il faut les écrire. Il faut qu'ils respectent des règles, mais il faut les écrire. C'est, et d'ailleurs, donc Thierry Breton a répondu brillamment.
C'est vu ça.
Il faut que Twitter réponde à des règles. Oui, mais je dirais
aux règles européennes déjà.
Mais il faut les écrire.
Il faut les écrire. Il faut encore les écrire. Bon, on n'a pas fini d'en parler. Et puis l'autre sujet sur lequel je voulais avoir votre avis, c'est cette folle semaine des GAFA en bourse, puisqu'ils ont perdu la bagatelle de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui ces groupes évoluer? Est-ce que vous dites que c'est la fin d'une époque ou sûrement pas finalement? C'est juste
non, ce n'est pas la fin.
Ils ont besoin tous de se réinventer quelque part.
Ça, c'est constant et d'ailleurs, ils se réinventent pratiquement tous les trimestres. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour eux. Moi, je dirais d'abord, il faut faire attention parce que la tech, c'est 4% du PIB du monde.
Ouais.
Et en fait, ça ne fait que servir le restant 96%. Et donc, s'ils toussent, c'est que le 96% du PIB est en train de ralentir des achats. Donc, ce n'est pas forcément un bon indicateur pour l'économie. On parle d'inflation, on parle potentiellement de récession. Donc il faut faire attention, c'est pas bien. Quand ils toussent, c'est pas bien. Je m'inquiète pas pour eux, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'ils ont fait des croissances monumentales pendant le Covid, deux ans.
C'est vrai.
Donc quand on dit
ils ralentent... Là, il y a un effet de base défavorable par rapport à l'an dernier, évidemment.
Exactement.
Bien sûr.
Donc s'ils ont fait des croissances à 40%, croître 10 sur 40, c'est quand même... ils se portent quand même bien.
Ils se portent quand même bien. Pour vous, ça n'est pas la fin de l'histoire. Et alors justement, nous, Européens, par rapport à ces GAFA, Carlo Porasanta, c'est... sur la révolution industrielle en cours, celle de la data, des données ou encore l'intelligence artificielle, vous dites dans cet ouvrage, donc non, l'Europe assurément n'a pas perdu la bataille de l'innovation. Qu'est-ce qui vous permet d'être si optimiste aujourd'hui face à l'Amérique, la Chine?
Parce que beaucoup reste à faire. Donc c'est clair que les Américains, ils ont un modèle très efficace. Donc ils se réveillent le matin, ils veulent conquérir le monde, ils font des produits et ils ciblent directement 1 milliard, 2 milliards d'utilisateurs. Ils y arrivent. Et maintenant, la Chine nous a démontré, avec leurs applications, leur cloud, qui sont aussi capable de le faire. L'Europe, sur les services que moi j'appelle horizontaux ou universels, donc le cloud ou les réseaux sociaux, on n'a pas eu cette capacité. D'accord ? On peut essayer de rattraper, mais à mon avis, ce n'est même pas la bonne bataille. Il faut regarder le reste de la partie à jouer. Et il y a beaucoup de parties à jouer. Et la partie à jouer, pour moi, est la digitalisation de ce fameux 96% du PIB mondial. Quels sont les verticaux, les industries dans lesquelles l'Europe a été excellente pendant des décennies, voire parfois des siècles, de l'agriculture à la finance, à l'énergie, à la manufacture. On a été et on est encore les meilleurs. Alors si nous sommes très bons là-dessus, comment est-ce qu'on envisage la digitalisation de ces chaînes de valeur, mais aussi, attention, parce qu'il y a aussi la menace derrière mon optimisme, comment est-ce qu'on évite que ce soit encore les mêmes 3, 4 ou 5 entreprises américaines et chinoises qui viennent nous dire comment on fait la finance, l'énergie, et la manufacture de demain.
Vous dites qu'il y a une place encore pour l'Europe et vous dites notre chance, c'est que le rythme de l'innovation s'accélère. Voilà, les cycles se réduisent. Vous dites, quand on regarde au fil de l'histoire comment ont évolué des groupes comme IBM, Microsoft et Amazon, il a fallu au fil de l'histoire de moins en moins de temps pour installer des positions irréversibles.
C'est ça notre chance
à l'Europe, en Europe.
C'est une chance parce que ça veut dire qu'en quelques années, on peut faire une vraie différence. Maintenant, il faut avoir le talent, la persévérance et la capacité à investir.
Est-ce que vous appelez, c'est ça l'élan décisif?
C'est l'élan décisif, Donc il faut s'organiser, il faut une politique industrielle, il faut du courage et de l'entrepreneuriat visionnaire, mais certainement qu'on peut réussir.
Qu'est-ce qui manque alors à l'Europe justement? Est-ce que c'est vraiment une question de volonté politique? Est-ce qu'il y a un petit peu le défaut de l'Europe dans bien des domaines, pas seulement dans celui-là, mais dans d'autres finalement?
On peut pas dire s'il n'y a pas un business florissant en technologie, c'est le problème du gouvernement.
C'est le problème des gouvernements, peut-être.
Alors, moi, je pense que déjà, c'est une question de culture d'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai travaillé 26 ans dans des boîtes américaines. J'ai vu leur philosophie d'essayer des choses, quitte à se planter et à recommencer. C'est d'ailleurs l'introduction de mon livre.
Et en Europe, on n'essaye même pas avant.
En Europe, on a peur de se lancer parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire si on ne réussit pas. Ça, c'est déjà fondamentalement erroné. Il faut surtout laisser les jeunes essayer, se planter et leur donner plus de pouvoir au sein de nos entreprises. La hiérarchie pyramidale qui a fonctionné en Europe pendant 100 ans n'est certainement pas la forme d'organisation meilleur pour faire les entreprises de demain. Donc la première chose, c'est être plus léger, plus en réseau, aplatir cette hiérarchie et laisser les gens qui savent, les gens qui ont appétit, les gens qui ont de la compétence et de l'ambition, dire en fait à l'entreprise comment il faut faire les choses.
Comment on fait évoluer un tel logiciel en Europe? C'est le combat d'une génération, je ne sais pas.
C'est un combat d'une génération, mais c'est aussi une volonté, franchement, des entrepreneurs et des leaders. Moi, j'ai vu, chez Microsoft, j'ai eu la chance d'être dans une période où Satya... Moi, je suis arrivé en 2011, est arrivé en 2014. Je l'ai vu pendant 8 ans œuvrer. Il a quand même révolutionné une boîte de 300 000 personnes. Et c'était d'abord et surtout une question de culture. Il a remis à la base de l'entreprise... Qu'est-ce que nous représentons dans le monde et comment est-ce que, pour obtenir ce résultat vers nos clients, nous allons travailler sur nous-mêmes? Eh bien, pourquoi une boîte française ne pourrait pas faire la même chose? Pourquoi des consortiums de boîtes françaises dans une chaîne de valeur verticale ne pourraient pas faire le même effort de transformation de culture et d'ailleurs travailler ensemble pour maximiser l'utilisation des données fantastiques que nous avons sur ces chaînes industrielles et en faire des business, les nouveaux business de demain.
Nous avons que les atouts en France. Deux questions, nous reste une minute, mais deux questions sur la France. D'abord, ce plan cybersécurité qui a été présenté hier par Jean-Noël Barrot. La cybersécurité du quotidien, c'est quoi pour vous, ça, Carlo Porras?
C'est très important parce qu'en fait, la cybersécurité et les menaces liées à la cybersécurité sont le retour de la médaille, le revers de la médaille de l'opportunité technologique. Donc, la technologie résout beaucoup de choses, permet beaucoup de choses, de la formation à la valeur économique, mais comme dans tout domaine, il y a des gens qui en profitent. Et donc, il faut faire attention. Il faut d'abord en faire de la formation, dès le plus jeune âge. Il faut expliquer
c'est de la pédagogie,
aux enfants. C'est de la pédagogie. Nous, on avait fait avec Microsoft cette association avec Unicité pour dire, allons expliquer aux jeunes, quand ils utilisent un dispositif, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi une application? Quand on rentre dans une application, les données sont acquises. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ça, il faut comprendre ça. Et ensuite, effectivement, comme l'Europe l'a fait avec le RGPD, nous pouvons établir des règles, donc la France fait très bien à le faire, de dire il y a des règles à respecter, il y a des labels de sécurité, je trouve que c'est des bonnes idées. Une petite recommandation, la France, c'est super, mais vous avez compris des couleurs de mon livre, que si on arrive à le faire...
Au vu des couleurs bleues et jaunes,
au niveau européen, c'est encore mieux. Et la France a, je pense, ce pouvoir. J'ai travaillé 25 ans en France. On a ce potentiel de pouvoir exporter au moins en Europe, et puis si on le fait en Europe, on va l'exporter dans le monde.
La France n'a pas perdu la bataille, ni l'Europe, bien sûr. Voilà pour cet ouvrage, Carlo Purasanta. Donc, ça s'appelle L'élan décisif, cette édition du Cherche Midi. Merci beaucoup de venir nous voir ce soir, Carlo Purasanta, l'ancien patron de Microsoft France avec nous. Merci beaucoup. 18h29, on marque une petite pause. Thomas Schnell nous redonne les infos dans un instant, et puis le grand débat jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
Un peu plus de 18h30 sur BFM Business, le grand débat dans un instant. D'abord, c'est Thomas Schnell qui nous redonne les grands titres de l'actu. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. La croissance française a résisté grâce aux vacances d'été augmentant de 0,2% au troisième trimestre, portée par les secteurs de l'hôtellerie ou de la restauration. Dans le même temps, l'inflation, elle atteint 6,2% sur un an avec une accélération en octobre. Le coût de l'énergie a augmenté de 19%, tout comme l'alimentaire, plus 11%. Un mouvement de grève en Allemagne à partir de demain dans l'industrie. Le puissant syndicat IG Metall appelle ses 3 800 000 adhérents à débrayer dans les secteurs de la métallurgie, de l'électro-industrie pour appuyer la revendication d'une hausse de 8% des salaires face à l'inflation. Outre-Rhin, elle atteint un niveau inédit depuis 1951, 10,4%. Pourtant, la croissance allemande a fait un léger rebond, plus 0,3%, alors que les économistes tablaient sur une baisse. Il faudra bientôt dire adieu aux voitures essence, diesel et hybride. Les eurodéputés, les 27 États membres de lieu se sont mis d'accord hier soir pour mettre fin à la vente des véhicules neufs à moteur électrique à moteur thermique à l'horizon 2035. L'action Air France KLM clôture à la baisse ce soir, moins 14% après pourtant avoir annoncé un bénéfice de 460 millions d'euros troisième trimestre et un chiffre d'affaires en hausse de 77%, un peu plus de 8 milliards d'euros, c'est mieux qu'avant Covid, oui, mais le chaos à l'aéroport de Schiphol dû au manque de personnel continue de plomber l'entreprise. Le rachat de Twitter fait bien plaisir à Donald Trump. L'ancien président se réjouit que le réseau social dont il a été banni soit désormais entre de bonnes mains, celle d'Elon Musk, et non, je cite, des fous de la gauche radicale. Le milliardaire tendance libertarienne promet la liberté d'expression totale et il a montré le chemin en montrant la porte à trois dirigeants de Twitter, licenciant entre autres la directrice juridique de Twitter qui avait décidé l'éviction de Donald Trump. L'action Twitter est certes suspendue ce soir, mais la bourse de New York annonce que l'acquisition est actée et ne manquez pas le documentaire à 21h de Tesla à SpaceX, le monde selon Elon Musk. Diffusion sur BFM Business. 18h34 sur BFM Business. C'était vous, Guillaume.
Merci beaucoup, Thomas. 18h34, oui, effectivement, c'est le début du grand débat sur BFM.
Good evening, business. Le débat.
Avec nos invités, Cyril Lachèvre est avec nous. Bonsoir Cyril, bonsoir. Bienvenue, fondateur de l'agence de communication Silence. Frédéric Farah, bonsoir. Frédéric,
bonsoir.
Économiste, chercheur, enseignant à Panthéon-Sorbonne. Jérôme Valut est avec nous. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. D'un mot, quand même, ce que nous a dit l'INSEE ce matin, ça ralentit. Oui. Ça ralentit inexorablement. 0,5% de croissance au deuxième trimestre, 0,2 au troisième, 0 pronostic l'INSEE. Est-ce qu'on entre dans le dur là, Damo, Frédéric, pour vous?
Si on observe la décomposition de l'INSEE, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement la demande intérieure, qu'est-ce qui la soutient? C'est pas la consommation des ménages, puisque la progression est nulle.
Ouais.
Ça ne vient que de l'investissement. Le rapport exportation-importation montre qu'au contraire, ça se dégrade à ce niveau-là, et donc c'est pas les exportations qui ont fait un moteur, puisque finalement, il n'y a pas 36 moteurs de la croissance, c'est la consommation, l'investissement, la différence entre les exportations et les importations, les variations de stock et les dépenses de l'État. Bon, consommation, c'est plat. Investissement, ça va mieux, ce qui permet de voir que la demande intérieure tient. Exportation, bof. Importation, ben, ça se dégrade. Et donc, pour l'instant, qu'est-ce qui nous reste ? Ben, l'État, mais comme l'État ne veut plus faire quoi qu'il en coûte et que ses prévisions budgétaires, il veut quand même contenir le déficit à 5%, comment fait-on dans une équation pareille ? La question se pose.
L'investissement aux entreprises, un économiste nous disait tout à l'heure, ça reste la bonne nouvelle. On sent que les entreprises sont prêtes, ont le pied sur l'accélérateur au cas où ça repartirait, Cyril, non ?
Oui, c'est la seule surprise. En fait, c'est effectivement, c'est un PIB porté par les entreprises, hein, parce qu'il y a d'abord beaucoup de restockage aussi. Ouais. Donc ça, c'est pas toujours bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, on anticipe qu'il faut reproduire tout de suite et se prémunir, notamment contre les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Ouais. Mais effectivement, l'investissement dans les entreprises est très bon, en particulier l'investissement dans les transports. Alors, ça s'explique d'une manière plus difficile. On sait que le transport maritime va très très bien. On a des commandes records de paquebots et autres navires. Donc ça peut jouer. Air France va très bien. Enfin bon, il y a un petit effet comme ça. Mais ce sont clairement pas des effets durables. Et c'est évident, quand on discute avec des chefs d'entreprise et en particulier des banquiers ou des gens dans le private equity, qui sont un peu la main dans le cambouis des petites entreprises, ils ont des perspectives comme, sombres, absolument sombres, noires. Mais il y a un petit effet encore, un peu comme dans les dessins animés où on court, on pédale. Le moral est pas si mauvais. Mesuré par les indicateurs de l'INSEE. Donc peut-être que c'est nous ou tout le monde qui collectivement est très pessimiste et finalement c'est pas vérifié par les chiffres pour l'instant, ce qui est quand même le cas, même si c'est pas bon du tout. Ou est-ce que on fait un peu de wishful thinking, comme on dit, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, en disant on verra bien quand ça ira mal. Mais voilà, c'est assez surprenant.
La formule qui circule en ce moment, c'est résilience en 2022, ralentissement 2023, reprise en 2024. Mais ça repose sur quoi ce scénario d'éventuelle reprise en 2024? C'est un petit peu de ça que j'ai un peu de mal à cerner, finalement. On spécule sur l'arrêt du conflit ukrainien, tout simplement,
ou... Alors, en même temps, je trouve que c'est étrange, parce que, de toutes les façons, en économie, au-delà de 6 mois, ça vaut plus grand-chose.
Bah non.
Donc,
a fortiori dans le contexte actuel.
Dans le contexte actuel. D'autant plus que, en fait, on pourrait essayer, si on essaie de voir clair, alors pas jusqu'en 2023 ou 2024, parce que moi, je n'ai pas de boule de cristal disponible, mais ce que je dirais, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que pour l'instant, se poursuit une drôle de séquence. C'est-à-dire que on a eu ces derniers temps, ces dernières années, des croissances qui n'étaient pas terribles, mais en même temps, le front de l'emploi ne s'est pas effondré. C'est-à-dire que...
Le chômage ne baisse plus,
Oui, mais en même temps, si vous voulez... on n'était pas dans une situation qui allait se dégrader. On allait nous dire qu'aux sorties de Covid, des faillites allaient arriver dans tous les sens, à tous azimuts. Bon, on l'a pas vu. On a attendu que les marchés s'effondrent d'un monde à l'autre. On l'a toujours pas vu. Bon. Donc, on poursuit. Il y a à la fois des inquiétudes sur le futur, mais le moral des entreprises à partir des indicateurs disponibles ne disent pas le contraire. Bon. Donc, ce qu'il voulait, on est dans une situation un peu étrange où, en même temps, les conditions de la politique monétaire, elles se durcissent.
Voilà. On va y venir. Période illisible.
Oui, assez illisible. Alors peut-être que c'est vrai qu'on est très frappé par les dernières crises très violentes qu'on a eues, exogènes, notamment le Covid, où à chaque fois la capacité de rebond était spectaculaire. Ouais, on se dit que ce scénario de résilience va se reproduire. Encore une fois, je trouve que c'est plutôt bien que facialement il y ait encore une sorte d'espoir et qu'on garde le moral, globalement. J'allais dire en off, pour employer des termes journalistiques, tout le monde est effondré, mais encore une fois, pour l'instant... Ouais. On ne voit pas totalement, même si ce n'est pas non plus rose.
Alors, à moins que Mme Lagarde et la Banque Centrale Européenne ne gâchent la fête, parce que vous avez vu ce qui s'est joué hier, donc 75 points de base supplémentaires du côté de la BCE. Et Christine Lagarde, on va l'écouter, nous prévient déjà qu'on ne s'arrêtera pas là, finalement. Écoutez.
With this third major policy rate increase in a row,
c'est la troisième fois d'affilée que nous augmentons les taux. Nous avons progressé en adaptant les politiques. Nous avons pris cette décision aujourd'hui, sachant qu'il faudra les relever encore afin de réduire l'inflation et d'atteindre notre objectif de 2%. Cela se fera au fur et à mesure des réunions, car l'inflation est beaucoup trop élevée, bien au-dessus de nos objectifs, et ce sera encore le cas pour un certain temps.
And will stay above our target for an extended period.
Elle est remontée comme un coucou, Madame Lagarde, et avec elle toute la Banque Centrale Européenne, finalement. Donc, on va continuer à remonter les taux d'intérêt, évitablement.
Oui, alors, le problème, c'est que, Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans son communiqué, parce que évidemment, comme vous le savez, chaque fois que ça sort, oui, je me précipite sur les communiqués de la BCE pour aller lire tout ça. Donc, parce que je me dis, allons à la source de l'affaire. Alors, je fais une remarque sérieuse, puis après je ferai une remarque parce que je crois qu'il y a un problème de traduction dans dans les communiqués de la BCE. Parce que, je commence par le problème de traduction, hein, parce que bon, ça, comme c'était dans le précédent communiqué, si vous voulez, ça commence à devenir étrange. Donc voilà. Donc on vous dit, les données les plus récentes confirment que les risques pesant sur les perspectives de croissance économique sont orientés nettement à la baisse. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les perspectives de croissance, les risques sont à la baisse. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins de risques. Donc on se dit, merveilleuse nouvelle. Puis on lit, après, on se dit, on comprend pas. Une guerre prolongée en Ukraine demeure un risque important. La confiance pourrait se détériorer encore et les contraintes d'offres s'aggraver à nouveau. Les coûts de l'énergie et des produits alimentaires pourraient également demeurer durablement plus élevés qu'attendu. Un ralentissement de l'économie mondiale pourrait constituer un frein supplémentaire.
Rassurant tout ça.
Donc on se dit, il y a un problème dans la traduction, parce que les risques ont l'air orientés à la baisse, mais dans les faits, il y a plein de risques. Donc, au-delà de cette remarque, parce que c'était le même problème dans le communiqué précédent. Oui. Donc je pense qu'il devrait changer de traducteur. Donc juste un mot là-dessus, la BCE nous dit qu'elle veut freiner la demande. Pensons à ce qu'on vient de dire. La demande aujourd'hui, elle ne tient plus que par l'investissement des entreprises. Donc vouloir freiner la demande, qu'est-ce que l'on veut ? C'est déjà que la consommation des ménages commence à s'aplatir. Alors si on prend la France, on pourrait dire qu'il n'y a pas que la France, mais tout le problème d'une politique monétaire qui convient à tout le monde. Donc, et aussi, je rajoute, donc ces trois directeurs, elle les remonte à 0,75, plus... Elle dit quelque chose de très intéressant, alors un peu technique et qui pourrait nourrir l'idée que les entreprises sont inquiètes. Parce que en fait, au moment du Covid, on avait lancé des opérations de long terme qui étaient les fameux, long terme operation, etc.
LTRO,
voilà. Et on était dans LTRO 3. Bon. Et donc, en fait, l'idée de LTRO 3, ça entrait dans la technique, c'était, en gros, la banque centrale allait finalement faciliter le financement des banques de second rang si elles-mêmes, à leur tour, allaient faire du crédit et allaient effectivement faire en sorte que l'économie dispose des liquidités nécessaires. Donc là, à ce niveau-là, elle va refermer un peu la porte. Donc on se dit, tiens, ça aussi, c'est pas très rassurant.
Est-ce que la Banque Centrale est partie telle une machine infernale, remonter ses taux, puis recommencer à dégonfler son bilan? Parce que ça va être ça aussi l'étape d'après, Cyril. Alors,
moi, je l'espère. J'espère qu'enfin, je suis très content de voir que la Fed le fait, que les banques centrales reprennent une politique monétaire conventionnelle, arrêtent de jouer aux apprentis sorciers. Donc, qu'elles dégonflent son bilan, qu'elles remontent les taux. 2%, c'est quand même pas la fin du monde encore par rapport à l'histoire. On est à peine à ce qui est considéré par les économistes comme un niveau à peu près neutre, ni trop dur ni trop accommodant. Donc il faut pas, voilà. Et en réalité, quand on écoute toute sa conférence de presse, on sent que finalement la poursuite des prochaines hausses de taux pourrait être un petit peu moins forte, et donc qu'il est possible en fait qu'il y ait encore besoin d'une ou deux dernières hausses de taux pour que l'inflation, qui après tout c'est son seul mandat, un peu jugement ce qui est bien ou pas bien, mais la BCE est censée juste piloter l'inflation et accessoirement la politique, la masse monétaire, ce qu'elle a complètement oublié depuis un paquet d'années, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, donc il n'est pas besoin d'avoir peut-être trop de hausses de taux pour y arriver. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le discours qu'on a entendu de la part d'Emmanuel Macron en début de semaine, qu'on entend un peu par-ci par-là, de dirigeants politiques qui disent à la BCE, arrêtez de relever vos taux et nous on va continuer à faire des déficits budgétaires. C'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. On a vu à quelle vitesse Liz Truss s'est fait dégommer là-dessus, parce que ça a fait un squeeze terrible pour les établissements financiers, les assurances-vie, etc. Donc soyons très prudents là-dessus, enfin attentifs plutôt à la dichotomie entre le discours politique monétaire, discours de politique budgétaire, enfin des États. Il faut vraiment pas donner l'impression qu'il y a la moindre divergence. Il faut soutenir la BCE, quoi qu'on en pense. En tout cas, quand on est un homme politique français, je pense.
Il est assez rare d'entendre un dirigeant européen.
Même si en général, j'ai bien conscience que ce discours est assez dur, ça va faire très mal. Effectivement, c'est pas bon d'augmenter les taux. J'en ai parfaitement conscience, mais à un moment donné, il faut être réaliste, raisonnable. On peut pas non plus jouer avec le feu tout le temps. Simplement, ne faisons pas n'importe quoi, et c'est ça qui m'inquiète si on continue à vouloir en même temps critiquer la BCE, du point de vue politique, pas nous sur ce plateau évidemment, mais ça c'est très embêtant, parce que les investisseurs, c'est quelque chose dans lequel ils vont s'engouffrer sans aucun problème.
On a vu, chez Giorgia Meloni aussi, qui a eu des mots un petit peu durs vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne récemment. Il est quand même assez rare de voir un dirigeant européen.
Emmanuel Macron, mais
c'est rare de voir un dirigeant européen, c'est vrai qu'il a tensé ouvertement la Banque Centrale Européenne pour le coup.
Mais en même temps, Madame Meloni, comme elle ne voulait pas connaître peut-être une fin fin un peu précoce de son gouvernement, elle a choisi quand même le ministre de l'économie qui était un ancien de l'équipe Draghi. Donc le message est d'une clarté absolue.
Allez, on marque une petite pause. On revient dans une petite minute sur BFM Business. Et puis, toute la tech, semaine de la tech, on va voir ça avec Jérôme, évidemment. Hein, Twitter, racheté par Elon Musk. Et puis, la folle semaine des GAFA qui ont perdu la bagatelle de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Voilà.
Sauf Apple.
Sauf Apple, effectivement, on en tire un mot. A tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, la deuxième partie du débat, 18h47 sur BFM Business avec Frédéric Farah, avec Cyril Lachèvre et avec Jérôme Valute. On en vient effectivement à tout ce qui a animé le monde de la tech cette semaine. Bah, à commencer par aujourd'hui, officialisation, ça y est, du rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Ardent défenseur de la liberté d'expression qui veut assouplir la modération des contenus. Écoutez ce que nous disait l'entrepreneur Ty Chris hier soir sur BFM Business. Lui, salue le rachat de Twitter par Elon Musk. C'est bon pour la liberté d'expression. Écoutez son point de vue, puis je vous fais réagir après, messieurs.
Moi, je trouve ça vraiment génial qu'ils le fassent. Il n'y a plus de liberté de parole et tous ces gros conglomérats qui sont détenus par des investisseurs où c'est toujours le gain financier politique à l'appui, à la fin, là au moins avec Elon Musk, il n'en a rien à foutre.
Voilà, c'est dit dans le texte, il n'en a rien à foutre. Oui, Donald Trump disait tout à l'heure, on va voir son post hein, sur ce réseau social, Twitter est désormais dans de bonnes mains. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, Jérôme?
Alors, le sujet, ça va être le sujet de comment Elon Musk engage ce sujet du débat sans haine et sans violence. Hein. Ça va être le vrai sujet. Déjà, il a annoncé qu'il risquait de licencier 75% des collaborateurs, qui sont essentiellement des modérateurs. On sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne sait pas modérer, elle ne sait pas gérer la nuance. Donc, bon, on va voir. Est-ce que c'est un débat réellement libre où tout le monde peut dire tout et n'importe quoi? C'est quand même extrêmement risqué, hein, de ce sujet de la non-modération et de la liberté d'expression tellement libertarienne. En fait.
C'est-à-dire qu'il ne pourra peut-être pas rentabiliser le réseau Twitter tel qu'il voudrait le rentabiliser, finalement. Alors, c'est ça, le défi.
Aujourd'hui, il y aura des garde-fous. 92% des revenus de Twitter, c'est la pub.
C'est la pub,
Pub. Alors lui, il dit, finalement, en ouvrant les vannes et en laissant tout le monde parler, je vais avoir une audience complètement dingue. Et je vais, parce que je vais fournir à tous ces gens-là le moyen de modérer eux-mêmes. Alors c'est le fameux produit Blue, abonnement, $3 ou $5, où je vais pouvoir gérer mes tweets, avoir une assistance particulière, etc. Il dit... en gros, un sixième des abonnés devrait payer leurs $3. Oui. Bref, il essaye de trouver de nouvelles méthodes en pensant que Twitter est un nain. Hein. Je veux dire, il y a 400 millions d'abonnés. Voilà. Et donc, lui, il dit on doit aller au milliard en 2028. Hein, donc, est-ce que l'ouverture complète permet d'aller au milliard?
Le Twitter, selon Elon Musk, comment est-ce que vous regardez ça, vous, Cyril?
C'est-à-dire qu'il s'est tellement mis dans un corner en essayant de finalement pas l'acheter et donc de tellement critiquer le modèle. Alors là, c'est vraiment du point de vue communication. Et donc de partir dans des histoires comme quoi il va justement recréer quelque chose, un vrai lieu d'expression, un open source, enfin un truc fantastique. Là, pour le coup, on voit pas du tout comment ça peut se rentabiliser. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir comment il va atterrir sur ses pieds. Mais il est un peu... Enfin, je ne conçois pas que quelqu'un qui a autant de besoins d'argent cash, non pas pour lui bien sûr, mais par rapport à tous ses projets, tous ses investissements, puisse s'asseoir sur 44 milliards de dollars en deux minutes juste pour le bien de l'humanité. Enfin, ça paraît un peu inconcevable. Et je pense que ça ne colle pas trop avec le personnage. Donc effectivement, après quel business model il va adopter, ça, je n'en sais rien. Mais il s'est quand même vraiment, en termes de com, c'est incroyable comme histoire. Moi, je ne sais pas s'il avait vraiment envie de l'acheter, si finalement il ne s'est pas coincé lui-même. Enfin, c'est quand même hallucinant.
Oui, parce qu'il y avait l'épée de Damoclès du procès, si jamais il n'achetait pas.
C'est ça. Finalement. Un dirigeant qui achète une entreprise en disant haut et fort, votre entreprise, c'est n'importe quoi, je vais la rendre gratuite et je vais tout changer.
C'est vrai qu'en termes de com, vous pouvez nous le dire, vous, c'est pas ce qu'il y a de mieux, effectivement. Non. Frédéric, un mot là-dessus?
C'est un peu... Effectivement, depuis le début, c'est un peu bizarre, cette affaire. Et on se demande si, finalement... ce truc risque pas, de manière peut-être pas étonnante, si je puis dire, un peu de se casser la gueule, finalement, hein, dans l'histoire. Parce que je ne sais pas où ça va aboutir. Sachant qu'aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux, c'est un élément clé du débat public contemporain, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Donc, quand même, il faut regarder à deux fois, parce qu'il se fait beaucoup de choses là-dessus. Il y a eu beaucoup de... de conséquences sociétales aussi de débats qui ont eu lieu sur Twitter, hein, qui ont effectivement modifié beaucoup de choses, qui ont eu un impact sur les législations, etc. Si c'était juste deux, trois personnes qui s'agitent dans leur coin et que ça n'a aucune conséquence sur la vie collective ou sur la vie politique, on aurait dit bon, que les gens s'agitent, si ça s'amuse, etc. Et tout. Mais c'est un vrai médium de la vie démocratique aujourd'hui. Donc savoir qu'est-ce qu'on en fait, on a bien vu que des tas de campagnes, des tas de sensibilisations, des tas de choses sont passées par Twitter. Donc effectivement, au-delà d'un business plan qui effectivement, enfin d'un business model pardon, qui reste à déterminer, c'est quand même très important parce qu'aujourd'hui on ne peut plus penser la démocratie moderne sans ça.
Oui, mais Jérôme, quelle est la plateforme de débat disponible aujourd'hui? Il n'y en a pas.
Oui.
Finalement, il n'y en a pas. Oui. Et comment organiser une plateforme de débat? Finalement, on a tous des usages de Twitter tout à fait particuliers. Oui. Moi, je l'utilise en ne parlant qu'aux gens qui sont préoccupés par les mêmes sujets que moi.
Oui,
la question, c'est comment ça devient un média? Comment est-ce que le débat devient avec une vision, je dirais, large et médiatisée?
Bien sûr.
Et donc, la question, c'est comment animer une plateforme de débat? L'intention est bonne, mais la manière de le faire.
Ça va rester évidemment la grande question des marchés. Comment est-ce que vous regardez donc cette folle semaine des GAFA? On le disait qu'on a perdu la bagatelle de 1000 milliards de dollars de capitalisation. Bon, il y a un effet de base défavorable par rapport à 2021, ça faut quand même en tenir compte.
Déjà, oui.
Mais quand même, est-ce que vous dites comme certains, c'est la fin d'une époque, voilà. Outre
non,
le fait qu'ils
pas.
Se réinventent tous les jours, c'est GAFA, je vois ce que vous...
Non, je pense pas, c'est la conjoncture, parce que si on regarde en détail, on s'aperçoit que pour chacun, c'est quelque chose de différent.
Ouais, c'est ça. Hein,
et donc, c'est pas les GAFA, les GFAM, parce qu'il n'y a pas Apple. Apple va bien, ils ont annoncé des résultats positifs, hein. Pas énormes mais positifs, ils surfent sur l'iPhone 14 Pro qui est grosse marge. Si on regarde Microsoft, c'est la chute des ventes des PC et donc de la licence Windows. Bon, donc c'est tout à fait particulier. Pourquoi le PC se casse la gueule? Meta, c'est la baisse des dépenses publicitaires et l'incompréhension des investisseurs autour du métavers et de ces sommes astronomiques dépensées dans le métavers.
C'est peut-être Meta le mouton noir dans cette histoire.
C'est sans doute Meta, mais sauf que effectivement ça coûte très cher. Google, il y a un indicateur très intéressant, c'est la première fois que la pub baisse sur YouTube. Et donc, leurs revenus ont considérablement baissé. Ils sont à 2,3 contre 45% l'année dernière. Donc, c'est énorme. Et puis, Amazon, c'est dans le contexte actuel, baisse des dépenses pour les fêtes et donc baisse des commandes sur Amazon.
Donc
on s'aperçoit.
Vous ne tirez pas de leçon particulière de cette séquence?
Non, je ne pense pas que ce soit un sujet GAFAM. C'est un sujet contexte.
Cyril ?
Non, mais alors, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment... Il y en a Amazon qui a des problèmes de conjoncture, enfin, à peu près normaux pour un groupe de distribution, malgré les développements, problèmes de pub, qui est assez normal aussi, qui sont assez normaux, pardon, dans la mesure où la publicité est un indicateur très avancé de la conjoncture, donc bon, que la publicité aille mal. Après, peut-être qu'il fait... Il faut surveiller cette histoire de YouTube, peut-être qu'il y a un changement. Mais bon, par exemple, Google y a répondu, enfin, essaie d'y répondre dès cette semaine. Ils ont mis en place un nouveau système pour dire un peu les pubs qui nous intéressent. Donc on sent... Bon, voilà. Et après, Meta, on ne sait pas du tout où ils vont. Donc là, c'est soit un autre monde, soit la fin du monde, pour eux. Donc non, franchement, c'est vrai que là, pour le coup, c'est difficile d'y voir une vraie tendance commune.
Pas de tendance, mais quand même sur Meta, j'insiste, il nous reste une grosse minute, mais sur Meta, voilà, il y a beaucoup d'incompréhension, effectivement, sur le métavers, sur la capacité à créer ce monde parallèle. Dites quoi, c'est quand on a vu Zuckerberg jouer son va-tout il y a quelques semaines devant les investisseurs, comme c'est révélateur, tout ça.
C'était un coup de... C'était Frances Hogan, c'était une manière de cacher la fumée. Et il a annoncé très tôt un sujet qui sortira pas avant 5-10 ans. Donc le métaverse, c'est effectivement la troisième génération de l'Internet. Donc la première, c'était comme ça. La deuxième, c'est comme ça. Et la troisième, ce sera non pas avec de la virtuelle, mais avec de la réalité mixée. Donc ce sera avec nos mains. Bon, mais ça, c'est pas avant 5-10 ans. Donc c'est une annonce en avance de phase.
Bon. Frédéric, quelques secondes.
Je crois qu'effectivement, avant de conclure que c'est la disparition de ce modèle-là, c'est peut-être un peu excessif. Je crois que de toutes les façons, même si ça est en train de rentrer en turbulence, on reste globalement dans l'économie mondiale, dans une économie rentière. C'est-à-dire la rente technologique, la rente de certains acteurs financiers, la rente des grandes métropoles. En fait, l'économie mondiale, je veux dire, reste finalement une économie de rente. Et c'est ça qui est assez curieux, parce qu'économiquement, quand on veut défendre la concurrence, la libre entreprise, la rente, c'est pas la chose qu'il faut défendre. Je veux dire, donc, et aujourd'hui, les caractéristiques de l'économie dans laquelle nous vivons, c'est une économie de rente. Et que ce qui arrive là, bon, évidemment... Les montants, c'est frais et autres, mais la logique rentière, demeure. Et c'est ça qui est, à mon avis, la chose la plus inquiétante dans un système qui se dit capitaliste. C'est ça qui est le grand paradoxe, c'est de vivre au cœur de rente.
Tout voilà. Change de même, mais rien ne change finalement. C'est ça, son l'histoire.
De toute façon, Google a une telle position de force dans son domaine ou à l'égard des médias que, oui, forcément, ils ont créé de facto une rente qui vont protéger. Ouais.
Et ceux qui font le parallèle avec l'explosion de la bulle Internet des années 2000 sont complètement à côté de la plage.
Non, il y a un contexte intéressant, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs. TikTok, par exemple.
TikTok, il reste évidemment.
TikTok est comme ça. Et effectivement, Apple, il faut le regarder parce qu'ils ont un petit jeu qui est amusant, qui est de poser un certain nombre de pions sur le marché qui empêchent les autres d'agir.
Amusant, pas pour tout le monde en l'occurrence. Et ben voilà, ainsi va la tech, ainsi va l'actualité éco. Merci beaucoup messieurs d'être venus ce soir sur BFM Business. Jérôme Valut, associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. Frédéric Farah, économiste, chercheur enseignant à Panthéon-Sorbonne. Puis Cyril Lachef, fondateur de l'agence de communication Silence. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business. 18h57, dans un instant, ce sont les pionniers avec Frédéric Mazella. Bonsoir Frédéric, quel est le programme ce soir ?
Bonjour, cette semaine au sommaire des pionniers chez Fred Mazella, nous aurons le plaisir de recevoir dans le tête-à-tête un grand pionnier de la télé, Frédéric Lopez, qui a créé une dizaine d'émissions de télé, notamment Rendez-vous en Terre Inconnue. À la suite, ce sera le pitch avec deux pitchers et à la toute fin, eh bien, je répondrai à toutes vos questions dans Fred vous répond.
C'est à suivre, merci beaucoup Frédéric, à dans quelques minutes, 18h58, nous on se quitte et on se retrouve lundi, 18h, Good Evening Business pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end sur BFM Business.
Good Evening Business sur BFM Business.